Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean, texte de la liturgie catholique pour la fête du Saint-Sacrement. Jésus leur dit,
« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient vers moi sûrement n'aura pas faim. Celui qui croit en moi sûrement n'aura jamais soif. »
Les Juifs murmurent à son sujet parce qu'il a dit, « Moi, je suis le pain qui descend du ciel. » Ils disent,
« Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il maintenant, je suis descendu du ciel ?»
Jésus répond et leur dit,
« Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Tout être qui écoute ce qui vient du Père, il l'apprend, vient à moi. Moi, je suis le pain de la vie. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que moi je vous donnerai, c'est ma chair, c'est ma vie charnelle pour la vie du monde.
Les Juifs se disputent entre eux en disant, comment celui-ci peut-il nous donner sa vie charnelle à manger? Jésus leur dit,
Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la vie charnelle du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Qui mâche ma vie charnelle et qui boit mon sang a vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma vie charnelle est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Qui mâche ma vie charnelle et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme mon Père, le vivant, m'a envoyé et comme moi je vis par le Père, qui me mâche, celui-là aussi vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel, il n'est pas comme celui que les ancêtres ont mangé. Qui mâche ce pain vivra pour l'éternité. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Georges, nous avons ici un langage extraordinaire, inhabituel, étrange même. On parle de mâcher la chair de Jésus, de boire son sang. Comment comprendre tout cela?
Eh bien, comme à notre habitude, situons d'abord le contexte. Ce dialogue entre les Juifs et Jésus se situe au lendemain de ce que l'on appelle la multiplication des pains, le grand repas des pains multipliés. On se souvient de cet épisode. Jésus, en effet, avait été ému de compassion, car les foules venaient à lui comme des brebis qui sont sans pasteur. On sait que le mot « pasteur » a la même racine que le mot « repas ». Le pasteur est celui qui mène à la pâture, c'est-à-dire au lieu du repas, pour nourrir son troupeau. Eh bien, les foules qui viennent à Jésus sont des petits, des pauvres, des gens qui n'ont pas fréquenté les écoles de rabbi, et qui sont donc sans instruction, qui ne connaissent pas la Torah, qui ne sont pas nourris de la parole de Dieu. Une foule immense a donc écouté Jésus toute la journée. Et le soir, eh bien, on prend conscience qu'il est tard et qu'on n'a pas de quoi manger. Alors Jésus organise un partage du pain.
Jésus prend les pains, rend grâce et les distribue aux convives.
Oui, ce partage du pain est probablement le geste symbolique par lequel Jésus rappelle aux foules qu'elles viennent d'être nourries par un autre pain, celui de la parole de Dieu. Oh, ce geste ne sera sans doute pas trop bien compris. En effet, lorsque les foules rejoignent Jésus le lendemain, Jésus va leur dire
« Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, découvert des choses de Dieu, mais parce que vous avez été rassasiés de pain. »
Et Jésus va les exhorter à travailler non pour ce qui est périssable, éphémère, passager, la nourriture du corps, mais pour ce qui demeure éternellement. C'est déjà ce que Jésus avait répondu aux malins dans le désert.
L'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu.
C'est aussi ce que Jésus a dit à Marthe qui s'inquiète d'être seule à préparer le repas, tandis que Marie, sa sœur, est assise au pied du maître, attentive à partager la parole de Dieu.
Marthe, tu t'agites pour bien des pains. Un seul pain suffit, celui de la parole de Dieu.
Déjà, au temps de l'Exode, les Juifs avaient mangé la manne, une nourriture qui semblait comme venir du ciel parce qu'elle poussait sans qu'on la sème. Et ils en avaient fait le symbole de la parole de Dieu.
Le Seigneur t'a donné à manger la manne pour te montrer que l'humain ne vit pas seulement de pain, mais que l'humain vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Lui, Jésus, par sa connaissance de la Torah, par son intimité avec Dieu dans la prière, est véritablement en communion avec le Père. Il est sur la même longueur d'onde que lui. Et donc, il devient le transmetteur de cette nourriture spirituelle qui vient de Dieu pour nourrir notre esprit. Si le corps est périssable, mortel, et se nourrit de choses terrestres, notre esprit, en effet, puisqu'il est destiné à l'éternité, ne peut se nourrir que de ce qui vient de Dieu.
Comment devons-nous comprendre la demande du Notre Père « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. »
Mais est-ce qu'il n'y a pas là à la fois la demande du pain, nourriture du corps, et la demande de la parole de Dieu, nourriture de vie spirituelle? L'expression grecque, qui est traduite par « de ce jour », c'est un mot qui est unique dans l'Évangile, et que les spécialistes traduisent de toutes les manières. Nous choisirons la traduction de Marcel Jousse, « Donne-nous aujourd'hui le pain du jour qui vient. » Et bien sûr, le jour qui vient, ce n'est pas le lendemain, puisque Jésus nous demande de ne pas nous préoccuper du lendemain. Non, le jour qui vient, c'est une expression traditionnelle de la Bible qui désigne le jour du banquet éternel, celui aussi qu'on appelle le jour du monde à venir, du royaume éternel de Dieu. Cette demande du Notre Père nous fait donc demander le pain de la parole de Dieu, et cela pour vivre dès aujourd'hui, d'une dimension divine. Ce pain de la parole de Dieu, eh bien, il nous est donné en Jésus. Je suis le pain qui vient du ciel, c'est-à-dire je suis la parole qui vient de Dieu.
Ce langage de Jésus est-il totalement nouveau? N'y a-t-il pas des passages de la Bible qui peuvent l'éclairer?
Bien sûr. Dans le livre de la Sagesse, un livre écrit quelques dizaines d'années avant Jésus, nous trouvons des idées semblables.
Ta volonté, ô Dieu, qui donc l'aurait connue? Si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit.
Voilà, si Dieu ne donne la sagesse et envoie d'en haut son Esprit. Eh bien, au temps de Jésus, certains groupes juifs attendent un Messie qui sera d'origine divine. On ne saura pas où il naîtra, et il apportera une nouvelle manne. De là la réflexion que rapporte notre récit.
Celui-là n'est-il pas le fils de Joseph? Nous connaissons son père et sa mère. Comment peut-il dire « Je suis venu de Dieu »
Et on sait, lui, où il est né et de qui il vient. L'Esprit du Père est pleinement en Jésus. Il le fait vivre, parler, agir. Il l'inspire. Aussi, celui qui est vraiment à l'écoute de Dieu est aussi en communion avec Jésus. Et celui qui est en communion avec Jésus se nourrit véritablement de Dieu. Pour reprendre une expression de Tertullien, un auteur chrétien du IIe siècle, en demandant au Père le pain du jour qui vient, nous demandons de vivre perpétuellement dans le Christ et de ne jamais être séparés de son corps. Jésus va prendre des images fortes pour faire comprendre qu'on doit se nourrir de paroles divines. Le pain, on le mastique, on le digère pour qu'il soit nourrissant. Eh bien, de même, la parole de Dieu, il faut aussi la manger, la dévorer, la mâcher. On trouve de telles images dans la Bible. Ainsi, le prophète Ézéchiel, dans une vision, voit une main qui lui tend un livre enroulé et qui lui dit
« Fils d'homme, mange-le, mange ce rouleau, Ensuite, tu iras parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. « Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai. Il fut dans ma bouche d'une douceur de miel.
Oui, le langage, notre langage courant, a aussi de telles images. On dit qu'on dévore ou qu'on boit les paroles de quelqu'un, qui est particulièrement passionnant. On dit de cette personne qu'elle nous nourrit de ses pensées. Eh bien, Jésus, parce qu'il est tout imprégné de la pensée du Père, est parole de vie éternelle. Et parce que sa pensée et son être ne font qu'un, parce que son être et son agir ne font qu'un, eh bien il peut dire que sa parole, c'est lui-même, c'est sa personne, c'est sa vie, c'est son amour. Écouter et garder en nous sa parole, c'est donc ne plus faire qu'un avec lui, c'est devenir son ami. La relation que Jésus veut avoir avec son disciple est plus qu'une relation d'enseignant à enseigner, comme peut l'être la relation du rabbi à ses élèves. Entre Jésus et son disciple s'établit une relation d'ami à ami. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami », dira Jésus au soir du Jeudi Saint. Écouter et se nourrir de la parole de Jésus, c'est donc accueillir en soi toute sa personne. C'est s'unir à elle. Comme est vrai de notre relation à Jésus, ce que Montaigne disait de son ami la Boétie, « Je l'aimais parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Pierre, l'apôtre Pierre, dira, avec la passion qu'il caractérise,
« À qui irions-nous, Seigneur? Tu as des paroles de vie éternelle. »
Oui, en Jésus, l'Évangile n'est pas seulement une parole, c'est une personne. Pour comprendre le langage de Jésus disant qu'il nous donne sa vie à manger, qu'il se donne à nous, il faut entendre cela comme le langage de l'amour. Le langage de l'amour parle d'union. Une maman dit à son tout petit qu'elle embrasse, « Je vais te dévorer. » L'amant dit à l'amante, « J'ai besoin de toi, je ne veux plus faire qu'un avec toi. » Eh bien, écoutons le livre de la Sagesse où Salomon parle de la parole de Dieu.
« Ayant considéré dans mon cœur que la parenté avec la sagesse assure l'immortalité, j'allais de tous côtés cherchant comment la prendre pour épouse. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché en enfer mon épouse, et je suis devenu l'amant de sa beauté. »
Oui, ce langage apparemment difficile, de la chair qu'il faut mâcher, qu'il faut manger, du sang qu'il faut boire, eh bien, c'est sans doute un langage qu'on ne peut vraiment comprendre que si l'on vit une vraie relation d'amour avec Jésus.
Faut-il pas aussi évoquer le lien entre la parole et le repas?
Oui, pour comprendre ces phrases de Jésus, il faut plonger dans la culture de la Bible. Le livre du Siracide a d'ailleurs ces vers bien connus qui parlent de la sagesse.
« Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. »
Dans la culture des peuples d'Orient, ceux qui partagent et se nourrissent d'un même pain doivent vivre une union profonde. Tout repas est une occasion d'échanger, d'établir une communion de pensée. Et lorsque le repas s'accompagne d'un partage de la Torah, de la parole de Dieu, alors les Juifs disent que Dieu est présent. Eh bien, Jésus redira la même chose.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui me mange vit par moi, demeure en moi et moi en lui. »
Oui, cela se réalise par la communion de pensée, d'esprit, qui s'établit par le partage de la parole. Mais il faut sans doute ajouter, à condition que cette parole ne reste pas lettre morte en nous, mais qu'elle devienne esprit vivant, inspiration, source de notre agir. La parole de Jésus doit vivre en nous. Manger la parole de Jésus, ce n'est donc pas seulement l'écouter, mais c'est la comprendre. Et la comprendre au sens premier de ce mot, qui est prendre avec soi, en soi. Il faut que cette parole imprègne notre mémoire, pour qu'elle devienne la source de nos gestes, de notre vie quotidienne. Il faut faire la parole. Du temps de Jésus, les familles juives célébraient un repas sacré le vendredi soir. Et bien des juifs pieux, qui étaient regroupés en confréries, célébraient aussi des repas religieux, des repas qui commençaient avec la bénédiction et le partage du pain, et qui se terminaient par la bénédiction de la coupe. Jésus, du moins c'est ce que je pense, a vécu très certainement souvent de tels repas avec ses disciples. Et ces repas sont un peu la source, les modèles de nos Eucharisties. Au début du repas, le président prenait la miche de pain et donnait un morceau de ce pain à chacun. Et ce geste était spontanément, naturellement parlant. Il rendait signifiante la communion entre les participants. Aujourd'hui, nos Eucharisties ont malheureusement un peu dénaturé les signes. La miche de pain s'est transformée en hostie, et au lieu d'un pain unique, ce sont des petites hosties individuelles qui sont déjà toutes prêtes. Et bien souvent, la part de pain que le convive reçoit, c'est-à-dire l'hostie que celui qui vient communier va recevoir, n'est pas celle sur laquelle les paroles de Jésus viennent d'être prononcées au cours du repas, car ces hosties sont souvent gardées de longs mois dans le tabernacle. Le symbole du repas de communion n'est plus vraiment visible. Or, un symbole doit parler par lui-même, et il doit parler très fort, il doit parler à notre cœur, il doit parler à notre vécu le plus profond. Lorsqu'on boit un verre entre amis, lorsqu'on choque les verres en faisant un souhait, lorsqu'on trinque, eh bien ce geste parle tout seul, il parle d'amitié. Lorsqu'une table s'orne de fleurs et de chandelles entre deux amants, le décor parle. Alors comment retrouver le symbolisme vécu par Jésus dans nos Eucharisties d'aujourd'hui? Et cette redécouverte serait pourtant tellement vitale pour tous, et spécialement pour les jeunes générations qui trouvent la messe tellement plate. Oui, ce symbolisme du repas, comme un moment intense de communion dans la parole de Dieu, Jésus l'a porté à sa plénitude, il l'a vécu avec un réalisme intense, il en fera le dernier, l'ultime lieu de communion entre lui et les douze, la veille de sa mort.
Le repas ultime du jeudi ne comporte-t-il pas un sens nouveau par rapport aux autres repas sacrés que Jésus a pu vivre avec les siens?
Oui, au moment où il sait qu'il va donner sa vie en mourant sur la croix, Jésus va donner à ce partage du pain une dimension nouvelle, plus grande encore. Le pain ne sera plus seulement le signe de lui-même, de son amour, de son amitié, il devient le signe de sa vie livrée. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Et la coupe sera celle de l'alliance nouvelle entre Dieu et l'humanité, une alliance qui sera scellée par sa mort, une mort choisie comme ultime geste d'amour et de pardon. Il ne faut pas séparer le dernier repas de Jésus, qui est maintenant l'Eucharistie, la messe, ni de la communion dans le partage de la parole, ni du geste de pardon qu'est le lavement des pieds. Ce geste du lavement des pieds, qui était jugé trop humiliant pour qu'il soit accompli par des serviteurs juifs. Par contre, ce geste était accompli par la fille envers son vieux père comme un geste de tendre affection. C'est peut-être ce sens que Jésus veut surtout donner. À la réaction de Pierre, « Me laver les pieds à moi, jamais ?» Jésus va répondre précisément en parlant de communion.
« Si je ne te lave pas, tu ne pourras pas être en communion avec moi. »
Le rabbi Jochanan disait, « Le maître qui empêche son disciple de le servir est semblable à celui qui lui refuse l'amour. » Eh bien ici, la situation est inversée. Le disciple qui empêche son maître de le servir est semblable à celui qui refuse l'amour que lui porte son maître. Jésus sait bien que Pierre va le renier. Et si Pierre est ainsi mis de l'avant dans le récit du lavement des pieds, c'est que, précisément, dans quelques heures, il reniera Jésus. Par avance, Jésus veut lui signifier que c'est pour lui, Pierre, qu'il va livrer sa vie sur la croix. La mort de Jésus est liée au pardon. « Père, pardonne-leur, dira Jésus sur la croix, et ce pardon est valable pour Pierre. » Alors que le coq chantera, le regard de Jésus se tournera vers Pierre, et Pierre se souviendra du lavement des pieds et de ce que Jésus lui aura dit. Mais ce lavement des pieds concerne aussi Judas. Aussitôt revenu à table, Jésus est pris d'une intense émotion et il déclare « Amen, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Celui qui mange avec moi, contre moi a levé le talon. » Trahison grave, quand on sait que partager le pain crée des liens sacrés d'amitié. Pourtant, Jésus lave aussi les pieds de Judas, lui signifiant ainsi son pardon d'amour. À Jean qui interroge Jésus discrètement, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Jésus répond, « Celui à qui je donnerai un morceau de mon pain. » Eh bien, donner un morceau de son pain, c'est encore un geste de communion. L'évangéliste ajoute, c'est à ce moment-là que Satan entra en Judas, comme s'il voulait montrer le lien entre la mort de Jésus et la rupture de la communion avec ceux qui lui sont les plus proches. Il semble que Jésus va vivre prioritairement sa mort comme la réponse de pardon envers ceux qui ont été ses intimes. Les autres responsables de sa mort, les chefs, les prêtres, ne joueront peut-être qu'un rôle second. Les autres récits évangéliques souligneront d'ailleurs la même chose, mais d'une autre manière. Lors de l'arrestation au jardin des Oliviers, Jésus appellera Judas « ami » et lui dira « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ». Ainsi, le dernier repas de Jésus et de ses disciples est lié au pardon, manifestant le sens que Jésus donne à sa mort. Et notons-le bien, à chaque Eucharistie, nous ne disons pas « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais nous disons « Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé pour le pardon ». Les mots « livré, versé pour le pardon » traduisent le sens suprême que Jésus donne désormais à tout partage du pain et de la coupe.
L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, transmet les paroles de Jésus en ajoutant « Faites cela en mémoire de moi ». Que signifie cette consigne de Jésus?
Oui, est-ce qu'il faut que nous la comprenions comme une demande de Jésus que nous refassions exactement le partage en redisant exactement les mêmes paroles? L'évangile de Jean dit d'ailleurs la même demande concernant le lavement des pieds. « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi ». Il ne s'agit pas simplement de reproduire extérieurement le geste, c'est bien plus. De même que « Je vous ai donné l'exemple de l'amour allant jusqu'au pardon », nous dit Jésus, de même vous aussi vous devrez vous aimer jusqu'au pardon. Un pardon crucial, c'est-à-dire qui trouve, qui porte la croix. Un pardon qui pardonne les reniements et les trahisons. Voilà ce que nous devons refaire à chaque Eucharistie. Nous engager à livrer notre vie, plutôt que de combattre par la violence ceux qui veulent nous détruire. Nous engager à pardonner quelle que soit l'offense. Nous engager à n'avoir d'autre arme que celle de la bonté. Qui voudra sauver sa peau en utilisant des moyens de violence qui détruisent l'autre, celui-là perdra son âme. Celui qui mange ma vie livrée, qui boit à la coupe de mon sang versé, pour vivre le même pardon, eh bien celui-là, nous dit Jésus, à la vie éternelle, il le remettra debout au dernier jour. Oui, depuis le matin de Pâques, nous avons en effet revu debout celui qui a donné sa vie et versé son sang. Il est pour nous le témoin de la force victorieuse de la bonté, d'une bonté qui va jusqu'au pardon, car cette bonté n'est pas simplement humaine, elle vient de Dieu, le vivant éternel.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Vous pouvez aussi utiliser notre télécopieur, le numéro est 514-256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous donner l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, revenez-nous la semaine prochaine. En attendant, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.